Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Face à la crise écologique, on peut avoir l'impression d'être comme un homme à côté d'une armoire avec des livres qui vous tombent les uns après les autres sur la tête jusqu'à être littéralement assommé sur ce sujet. Si l'on entend souvent parler des méfaits de la trop grande consommation de viande, l'on sait moins qu'il en est de même pour les poissons victimes de la surpêche. Pourtant, après s'être pris les livres sur le coin de la tête ou de la figure, si je puis dire, l'on peut faire un pas de côté et découvrir quelques rayons de soleil par la fenêtre, un rayon de soleil comme celui de l'aquaponie. Oui, vous avez bien entendu. L'aquaponie, une technique révolutionnaire d'élevage de poissons, en même temps que de plantes en tout genre, une culture écologique qui plus est. Aquaponie, Kezako, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Dans le Kezako, on entend probablement la surprise de bien des auditeurs. Pour nous en parler ce matin, Patrice Astre, vous êtes président de l'association toulousaine d'aquaponie LATA, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir fait le déplacement. Et Pierre Aubignac, vous êtes cofondateur d'Aquacosi, ferme aquaponique, donc comme on dit dans le jargon, près de Montauban. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait un détour par nos studios. Donc, vous allez nous faire découvrir cette technique donc d'élevage de poissons et de culture de légumes, mais aussi de d'autres plantes, si j'ai bien compris. Technique qui pourrait s'avérer révolutionnaire. Je le dis par pédagogie pour les auditeurs. On va prendre le temps, évidemment, au long de cette émission. On va faire un petit détour au début de cette émission pour aborder le sujet de la surpêche et des limites de l'aquaculture. L'aquaculture, vous connaissez aussi Patrice Astre parce que vous avez eu des fonctions dans la Fédération française d'aquaculture. On va commencer par un extrait. C'est un extrait d'une vidéo de WWF, l'ONG, sur la surpêche.
La Terre. À l'heure actuelle, 7 milliards d'individus vivent sur 30% de sa surface. Et toutes ces personnes dépendent des 70% restants, l'océan. L'océan est la source de nourriture la plus importante au monde. Le poisson constitue le principal apport quotidien en protéines pour 1,2 milliard d'habitants. Mais de plus en plus de pêcheurs rentrent avec des filets vides. Revenons un peu en arrière. Certains scientifiques affirment qu'au cours des 60 dernières années, les stocks de gros poissons ont baissé de 90%. Ils nous avertissent du déclin probable de toutes les espèces pêchées dans moins de 50 ans. La cause principale, la surpêche. Les palangriers déploient 1,4 milliard d'hameçons par an. Chaque appât étant garni de morceaux de poisson. Certains chalutiers jettent des filets d'une superficie pouvant atteindre jusqu'à 23 000 mètres carrés, la taille de 4 terrains de football. Assez pour contenir 13 Boeing 747, ou d'ordinaire, plus de 500 tonnes de poissons. Ces 500 tonnes de poissons comprennent de nombreuses prises accessoires, c'est-à-dire des créatures marines capturées accessoirement, souvent en grande quantité. Généralement, les chalutiers à crevettes rejettent à l'eau entre 80 et 90% de ces animaux. Ceci signifie que, pour un kilo de crevettes, on capture et gaspille jusqu'à 9 kilos d'organismes marins.
Voilà pour cet extrait vidéo donc de l'ONG WWF sur la surpêche. Alors comme disent les jeunes, ça calme. Si par hasard on n'était pas au courant du sujet, beaucoup d'informations là-dedans, on va y revenir. Peut-être une information qui a été donnée sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, vous qui probablement sensible au sujet, sinon vous ne vous lanceriez pas dans cette activité, ou en tout cas soutiendrez cette activité. C'est donc que d'ici 2050, je me tourne vers vous, Patrice Astre, l'ensemble des poissons que l'on pêche aujourd'hui pourraient disparaître de la surface de la Terre. On en est là?
Alors, que j'entends cette présentation extrêmement sombre, effectivement, il y a de quoi broyer du noir. En fait, ça recouvre toutes sortes de situations. Vous avez, par exemple, la pêche telle qu'elle est pratiquée au large du Pérou et du Chili. C'est une pêche responsable, avec des quotas qui évoluent chaque année en fonction de la ressource en poisson. Et ces deux pays, je vous assure, ont vraiment à cœur de gérer au mieux leur quantité. À côté de ça, il y a d'autres régions, comme par exemple l'Union européenne, qui procède aussi par des pêches par quota sur toutes sortes d'espèces de poissons. On entend assez souvent quand même les pêcheurs
quota pas toujours respectés
par rapport à ça. Oui, mais il y a des pressions lourdes aussi de la part de l'UE pour les faire respecter. Et puis, il y a malheureusement toutes sortes d'autres régions où c'est un peu la jungle, j'allais dire, avec ce que WWF a mis en avant, des ramassages qui sont massifs, des pêches avec des systèmes électriques aussi qui vont très très loin dans la destruction de la ressource. Donc c'est finalement...
La pêche en chalut aussi, vous pouvez peut-être expliquer, là, c'est une espèce d'immense filet où, en fait, où on racle le fond et on ramène tout, c'est ça c'est...
Oui, alors bon, je ne suis pas quand même spécialiste là-dedans, je suis un ancien pisciculteur, j'aurai l'occasion de vous en parler. Donc j'ai pas eu l'occasion de pêcher au chalut, mais là on pourrait dire aussi que ça dépend les zones où est-ce que c'est pratiqué, la taille des mailles aussi. Donc en Europe, toujours pareil, il y a des normes qui sont précises, et ailleurs, ben, ça se fait un petit peu n'importe comment. Vous avez aussi des flottilles de bateaux avec le bateau usine, ce qui fait qu'il y a un ramassage intensif et on crée un désert sur tout un secteur. Voilà, c'est
alors,
ce qui arrive.
Je cite d'autres chiffres que j'ai vus. Hein, je vous laisse les tempérer si besoin. On ne va pas y passer toute l'émission. Mais donc, les stocks mondiaux, il y aurait 58% qui seraient pleinement exploités, 31% qui seraient surexploités. J'ai vu qu'en France, on consommait 19 kilos de poissons par an. C'est deux fois plus qu'il y a 50 ans. C'est aussi des ratios qu'on a fait dans d'autres émissions à propos de la viande, hein, qu'on peut entendre, même si peut-être le ratio est encore plus important. Vous n'êtes pas non plus un spécialiste de la pêche, Pierre Aubignac, mais on imagine que si vous êtes lancé dans la coponie, si vous êtes un peu sensible au sujet, quelle serait votre réaction? Est-ce que c'est une inquiétude pour vous?
Alors je vais vous dire, même je vais assombrir le tableau parce que là on parle de la situation actuelle, mais alors moi je suis ingénieur agronome de formation. On nous apprend que notre génération va devoir nourrir 2 milliards de personnes supplémentaires en 2050. Donc en plus de diminution des stocks qu'on a aujourd'hui, eh bien, on va devoir avoir une demande plus importante encore en poissons. Donc oui, c'est des questions moi qui me taraudent, et c'est pour ça que je me suis lancé clairement dans ce secteur.
On pourrait dire aussi que là, beaucoup des importations de poissons viennent des pays en voie de développement, et que ces pays, s'ils ils n'ont plus de poissons, bah, évidemment c'est une partie de leur activité qui va disparaître. Alors, c'est pas une émission totalement sur la surpêche, à moins que vous vouliez rajouter d'autres choses. Parlons aussi de l'aquaculture. Oui, pardon, vous voulez rajouter quelque chose, Patrice?
Oui, excusez-moi, je voulais rajouter une chose quand même, c'est que... En fait, ce qui se passe, il y a une bonne partie de la production qui concerne la consommation, mais à l'heure actuelle, l'aquaculture représente majoritairement les poissons qui sont consommés dans le monde. C'est à peu près 53% des poissons, des 150 millions de tonnes par an consommés proviennent de l'aquaculture. Et donc, il n'y en a plus que un peu moins, enfin 47% qui proviennent de la pêche. Et autre chose dont les médias ne parlent pas beaucoup, c'est que l'essentiel des farines de poisson, on en parle souvent des farines de poisson, elles servent à nourrir non pas les poissons de l'aquaculture, mais les porcs et volailles chinois.
C'est-à-dire, en fait, nous, là
les farines de poissons, oui. Oui, vous pêchez les poissons, oui, pour les consommer directement, oui, mais aussi pour les transformer en farine et huile de poisson. Et pour ce qui est des farines de poisson, elles sont essentiellement utilisées pour nourrir des porcs et des volailles, et non pas des poissons, pas spécialement des poissons.
Et ça doit en faire des volailles quand on sait le goût qu'ont les Asiatiques pour les volailles.
Exactement. Quant à la Chine, puisque je parlais de production au niveau de la Chine, elle représente à peu près 60% de la production mondiale de l'aquaculture. C'est déjà un gros producteur.
Alors justement, l'aquaculture, venons-y, ouais. Patrice Astre. Oui. Donc vous me disiez que vous avez été donc pisciculteur, et donc vous avez eu des fonctions donc dans la Fédération française d'aquaculture. Donc vous l'avez dit, hein, c'est 50% de la production mondiale de poissons aujourd'hui. Néanmoins, l'aquaculture, alors on va dire qualité et défaut. Vous qui avez été dans le métier, qui aujourd'hui soutenez l'aquaponie, brièvement évidemment, est-ce que vous pouvez, commençons par les qualités pour avoir quelques rayons de soleil dans cette émission. Quel avantage a l'aquaculture sur, on va dire, la pêche traditionnelle?
On va dire Ça m'embête un petit peu de faire la critique de la pêche.
Comparaison n'est pas raison, mais...
Oui, c'est ça, parce que dans la pêche, vous avez...
Vous n'êtes pas obligé de comparer, mais...
Ah non, mais vous avez des poissons qui sont prélevés assez loin des lieux de consommation, donc des produits qui peuvent être assez dégradés. Bon, dans le cas de l'aquaculture, la plupart du temps, on a des poissons qui arrivent chez le consommateur très rapidement, donc beaucoup plus frais, des tailles régulières, homogènes, et une régularité, je dirais, dans la qualité des produits. Voilà, ça c'est un peu dans les grandes lignes.
Alors ça, c'est les plus. Quant au moins, j'en ai lu 2-3, et on y viendra après, donc à propos de l'aquaponie. Semble-t-il, l'aquaponie n'a pas ses désavantages. C'est que donc ces poissons, il faut les nourrir. J'ai vu que pour 1 kg de bar, il fallait 4 kg de farine de poisson, justement. Pour 1 kg de thon, il en fallait 20. Et puis, il y a aussi tous les déchets, que sont donc les déjections... et autres antibiotiques. Okay. Alors, je ne veux pas dénigrer la profession qui a été la vôtre, mais évidemment, il n'y a pas d'équation parfaite, mais quels sont les désavantages à l'aquaculture ?
D'accord. En deux mots, ce qu'on oublie là-dedans, c'est toute l'évolution qu'il y a eu dans l'alimentation des poissons. Moi qui suis là-dedans depuis déjà un paquet d'années, on est passé d'une période où il y avait effectivement des teneurs importantes de farine de poisson dans l'alimentation des poissons. Donc, on peut se poser des questions effectivement sur la logique du système. Et à l'heure actuelle, on n'a plus qu'un très faible pourcentage de farine de poisson qui sont remplacées par des protéines végétales. Les huiles de poisson qui sont largement remplacées par des huiles végétales. Et on va en parler tout à l'heure. Il y a toutes sortes de recherches qui sont menées et même d'expérimentations pour utiliser aussi des farines d'insectes à la place des farines de poisson. Donc je veux dire, on est vraiment dans un grand tournant.
Il y a une transition aussi du côté de la pisciculture.
Là, on vit un tournant actuellement.
Ouais, d'accord. Ça. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Et alors, quid des déchets ? C'est inévitable, alors, on imagine.
Là aussi, grand...
Déjection.
Non, mais je vais vous en parler sereinement. Grand bouleversement aussi, je vais dire. On passe d'une situation... Vous avez un site de production avec la consommation d'aliments et puis des rejets dans le milieu naturel. Alors, si on prend le cadre de la France, qui doit respecter un certain nombre de normes, mais qui part quand même dans le milieu naturel. Alors, ensuite, on va
Les rejets, c'est quoi ? C'est les déjections ?
Alors, c'est les rejets solides, les déjections des poissons, et des rejets dissous, l'ammoniac rejeté par les poissons.
D'accord.
Voilà. Et donc, l'évolution, si vous voulez, c'est d'une part l'utilisation de bassins de décantation, mais aussi de systèmes de filtration qui retiennent ces déjections de poissons. Donc, on voit les évolutions, et de plus en plus, maintenant... on va vers des systèmes qu'on appelle des circuits fermés, où on a une épuration beaucoup plus poussée de l'eau, et vous allez voir que l'aquaponie va encore plus loin par rapport à ça.
Alors venons-y à l'aquaponie, avant qu'on fasse une première pause musicale. On va introduire donc cette production que d'aucuns disent révolutionnaire. On s'étendra un peu plus dans la deuxième partie, on expliquera un peu plus dans le détail. Vous, Pierre Aubignac, qui êtes donc cofondateur d'Aquacosi, donc ferme aquaponique, à Montauban, c'est donc le nom de votre ferme pour les professionnels. Vous me disiez que pour les particuliers, c'était l'île aux légumes. Poissons, légumes, on s'y perd. Expliquez-nous quel est le principe de cette pêche, cette production, cet élevage de poissons dit un peu révolutionnaire.
Alors, premier point, alors sur la partie élevage de poissons, on est assez anecdotique puisque nous, alors j'ai retenu les chiffres là de l'émission, c'était 500 tonnes de poissons par chalutier sur une pêche. Nous, sur une année, on produit 5 tonnes entre 5 et 6 tonnes de poissons. Donc on voit qu'on n'est clairement pas sur les mêmes échelles. Donc le principe de l'aquaponie, c'est le suivant, c'est donc comme le disait Patrice, on récupère les déjections donc qui posent problème dans l'aquaculture, donc des déjections solides, des déjections liquides.
Donc on a un bassin avec des poissons.
Exactement, voilà. Faut vous imaginer deux gros aquariums.
Voilà.
Donc d'un côté, le premier aquarium où vous avez des poissons, comme sur un système aquacole classique, il y a des déjections. Ces déjections-là, plutôt que de les considérer comme un déchet, nous on va en faire un produit, c'est-à-dire qu'on va le transformer par des bactéries qui sont naturellement présentes dans l'environnement en nutriments pour les plantes. Donc de l'autre côté, on arrive au deuxième aquarium.
Donc entre les deux aquariums, il y a
un compartiment de bactéries. Voilà. Et vous avez ensuite le deuxième aquarium où vous avez les plantes qui vont pousser les racines dans l'eau, donc indépendamment du sol. Et donc ces plantes vont transformer donc ces déchets qui étaient devenus progressivement nutriments pour plantes, ils vont les transformer en matière végétale. Nous, on va récolter cette matière végétale puisqu'on fait pousser des légumes, des plantes, on y reviendra un peu plus tard, et vont faire revenir aux poissons une eau épurée.
Alors, pour finir le teasing de la deuxième partie, qu'est-ce que vous élevez comme poisson et qu'est-ce que vous vendez comme légumes ?
Alors, nous, on travaille...
Aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, donc, nous, on a un atelier aquacole avec du cendre et de la perche. Donc des poissons d'eau douce. Et pour la partie maraîchage, on travaille sur des plantes aromatiques et médicinales. Donc on va faire de l'absinthe, on va faire du thym, du romarin, tout ce qui est aromate. Et également tous les produits de saison maraîchers. Donc là actuellement, on a essentiellement du chou en cette saison. Mais en été, on va avoir des piments, des tomates, des poivrons, des fraises, etc.
Allez, on fait une première pause musicale et puis on va revenir sur l'aquaponie. Avoir des choux grâce aux déjections et des bons choux, semble-t-il, grâce aux déjections de poissons, ça ouvre des perspectives, même si c'est un peu court pour le moment de présenter comme cela. On fait une première pause et on vous retrouve.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Aquaponie, Kézako, c'est donc le thème et la question toute simple de l'émission de ce matin, ce vendredi, avec Patrice Astre, président de l'association toulousaine d'aquaponie, ATA, et Pierre Aubignac, cofondateur donc d'Aquacosi, ferme aquaponique à Montauban. L'aquaponie donc fait de plus en plus parler d'elle. Comme pour la première partie, je vous propose qu'on commence par un extrait d'un reportage. Cette fois, c'est un reportage de France 2. C'était dans le journal du soir de France 2. Reportage relativement récent, si je ne me trompe pas.
Voici l'agriculture de demain. Un empilement de légumes sur plusieurs étages, comme ici à Chicago, le plus grand potager du monde, en pleine ville, sous lumière artificielle. À première vue, un cauchemar industriel, en fait, un système vertueux qui s'appelle l'aquaponie. Et si c'était la solution pour nourrir les grandes mégapoles du monde, une culture de produits frais au pied des tours qui ne gaspille ni eau ni engrais. Ici, à côté de Lyon, cet horticulteur est l'un des pionniers en France. Mais qu'est-ce que l'aquaponie ?
C'est le mariage des poissons, de l'eau et des plantes. Et c'est l'eau des poissons qui nourrit les plantes.
Comment ça marche? L'eau des poissons passe dans un bac où elle se purifie sous l'action de bactéries. L'ammoniac des déjections des poissons se transforme en nitrates, des nitrates dont se nourrissent les plantes. L'eau ainsi purifiée retourne dans le bassin des poissons pour l'oxygéner. Un système en circuit fermé qui permet d'économiser 80% d'eau, idéal pour la ville.
L'avenir est lié à la culture en ville. La ferme urbaine est déjà là, elle est prête. Maintenant, c'est aux citoyens de retrousser les manches et de réapprendre le métier de jardinier.
Alors voilà pour cet extrait, donc avec des petits sauts pardon, auprès des auditeurs dans l'extrait diffusé. Alors ça fait deux fois qu'on l'explique, mais peut-être voulez-vous apporter quelques détails. Pierre Aubignac, ces deux bassins, ces bactéries au milieu, les déjections des poissons qui sont transformées et qui passent donc d'ammoniac à nitrate, c'est ça? Et le nitrate, en fait, c'est ça qui nourrit et qui fertilise les légumes ou les plantes?
Alors tout à fait, quand vous mettez en fait des engrais dans un champ, l'élément principal qu'on va apporter la plupart du temps, ce sont des nitrates. Donc là en gros, ce sont des bactéries, ces bactéries-là elles sont présentes naturellement dans l'environnement. On les connaît depuis de très très nombreuses dizaines d'années. Et en gros l'idée c'est de les récupérer, donc naturellement de les mettre dans un bassin d'eau, où elles vont transformer cet ammoniac, donc c'est le cycle naturel en fait de l'azote dans l'environnement, de transformer l'ammoniac puis en nitrate, et ensuite les plantes vont absorber ce nitrate.
Alors, question toute bête, mais sur quoi plante-t-on les plantes si c'est pas sur de la terre? Alors, je fais l'innocent parce que j'ai vu quand même deux, trois choses, mais dites-nous, sur quoi vous les plantez?
Alors, la plupart du temps, on ne les plante pas, on les sème, pour être précis. C'est-à-dire
mais vous ne les semez pas dans l'eau?
Alors, on peut faire des semis directs. C'est-à-dire
vous
que
mettez la graine dans l'eau?
Alors, pas directement dans l'eau. En fait, on a ce qu'on appelle un lit de média. Donc, on va faire des bassins, par exemple, remplis de billes d'argile, donc qui est un substrat inerte. Donc, en gros, c'est juste un support racinaire dans lequel on va jeter des graines, comme on faisait autrefois à la volée, et les graines vont naturellement germer à l'intérieur.
Parce que l'argile, si j'ai bien compris, les billes d'argile, c'est justement cette bactérie qui permet la transformation de l'ammoniac en nitrate?
Non, les billes d'argile, c'est ce que vous avez, les jardiniers, d'accord, vous les trouverez en jardinerie. En gros, ça vous permet d'aérer vos pots quand vous faites un peu de jardinage.
Donc, j'ai de l'eau, je mets des billes d'argile,
oui,
et je sème directement là-dessus, ou je mets déjà une plante, déjà un plant en fait?
Non, vous pouvez directement semer dessus, ça poussera. Nous, on fait ça au niveau de l'exploitation. Et après, une autre manière, c'est de faire sur des petits, ce qu'on appelle des plugs, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont des petits supports, soit de laine de roche, soit de tourbe, etc., où on va faire un premier semis, donc vous allez avoir la graine qui va germer, et une fois que le plant est suffisamment grand, on le transfère sur des radeaux qui vont flotter sur l'eau.
Alors, quels avantages à l'aquaponie? Pourquoi se creuser autant la tête? Expliquez-nous. On peut se dire que ça paraît bien, très surprenant et pourquoi pas être une bonne idée, mais quels sont les avantages, Patrice Astre, à ce type de culture? Et vous qui avez été pisciculteur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez à soutenir le développement de ce type de production?
Oui, bonne question. J'ai découvert.
Vous me rassurez.
Oui, j'ai découvert ça au fin fond du Pays Basque il y a maintenant un paquet d'années. C'était dans les années 75 à peu près.
Et vous étiez à l'époque pisciculteur donc.
Je me destinais à devenir pisciculteur. J'ai découvert un savant, je vais dire son nom, René Lézel, au fin fond d'une station INRA à Saint-Pé-sur-Nivelle, qui travaillait déjà à l'époque sur, ça s'appelait pas encore la coponie, mais c'était ça. C'était, pour lui, c'était comment transformer les déchets des poissons en, plutôt que ça aille dans les rivières, en les valorisant par des plantes, par d'autres types de production. Et j'ai finalement eu l'occasion de réaliser ce projet, de commencer à partir là-dedans, il y a juste quelques années. Vous voyez un peu l'écart de temps.
Donc, un premier avantage que vous venez de citer, c'est donc le fait que les déjections de poissons sont des fertilisants.
Ouais.
C'est une espèce de compost en fait, naturel, pour reprendre un autre terme qui est cette fois celui de la permaculture. Mais qu'y a-t-il comme autre avantage? Est-ce qu'il y a moins de... On utilise moins de produits, d'intrants, comme on dit, pour l'élevage de poissons
Alors,
ou,
on va
d'engrais.
Okay.
Ou...
On va vous faire court. Je dirais, il y a trois avantages, d'autres aussi. Mais déjà, au niveau de l'eau, on utilise considérablement moins d'eau que sur une pisciculture classique. Et ça, c'est important parce qu'on se retrouve dans des situations maintenant où de temps en temps on parle de crue, mais de plus en plus souvent de sécheresse, de fortes températures, de gros problèmes pour arriver à produire du poisson.
Est-ce que vous avez un ratio à citer pour l'eau?
Oui, c'est à peu près 30 fois moins d'eau que sur une pisciculture classique. Voilà, pour faire 20 tonnes de truite, il faut 250 mètres cubeurs et à peu près 8 mètres cubeurs sur une pisciculture.
Redites-nous les deux chiffres, 250 et 8, c'est ça?
Et 8, oui.
D'accord, et là encore, vous ne tenez pas compte de l'arrosage des plantes. Donc du maraîchage, c'est ça?
Si,
c'est les deux compris.
Si, parce que, comme on a pu vous l'expliquer, l'eau qui traverse les bassins des poissons va ensuite... alimenter les légumes et après épuration,
c'est la même eau. Mais dans votre calcul, en faisant la comparaison, vous additionnez dans vos 250, donc l'élevage plus le maraîchage.
Non, quand je parle de 250 mètres cubeurs, c'est ce qu'on appelle un circuit ouvert, une pisciculture classique. Vous avez un barrage, une prise d'eau sur un ruisseau ou une rivière qui alimente les bassins et à la sortie qui revient à la rivière.
J'ai compris, mais dans la pisciculture classique, on ne fait pas pousser des tomates. Donc en plus, il faudrait rajouter ce qu'on va utiliser pour le maraîchage, si je peux me permettre.
Bah, c'est une adaptation, si vous voulez, par rapport à des piscicultures classiques. On peut imaginer des adaptations. On va consommer beaucoup moins d'eau pour produire ensuite à la fois des poissons et, disons, une production végétale qui peut être des légumes, des fruits rouges, des plantes aromatiques.
Alors, oui, pardon, Pierre Robignac, sur le volet eau, puisqu'on s'est arrêté sur celui-là.
Oui, alors, pour répondre alors juste sur la partie légumes, pour donner un ordre d'idée à ceux qui ont un potager qui nous écoutent, pour produire un kilo de tomates équivalent sur une ferme aquaponique et dans votre jardin, nous, on va utiliser en fait 10 fois moins d'eau que dans un potager, pour un kilo de tomates équivalent. Pour voir l'économie d'eau, quand on parlait de 80, c'est entre 80 et 90% de l'eau
donc
qui est économisée.
Donc 30 fois moins pisciculture aquaponie, ouais. Et 10 fois moins pour le maraîchage.
Exactement.
Ah, voilà, donc au final, ça fait 40 fois moins presque si on cumule les deux. Cette eau, juste, c'est une eau donc qui tourne, qui se recycle. On peut l'utiliser comme ça aussi indéfiniment. C'est forcément de l'eau douce.
Alors, pas tout à fait, si vous voulez.
Patrice Astre.
Oui, merci. Pas tout à fait, parce qu'en fait, suivant le type de poisson qu'on va élever, on va avoir des poissons d'eau froide comme les truites, par exemple, ou des poissons d'eau chaude comme les perches, les cendres d'aquacosie. Et donc, si on prend le cas des poissons d'eau froide, si on a recirculation en permanence avec quasiment pas de renouvellement d'eau, on va avoir un échauffement et ça ne va plus convenir aux truites. Donc, dans la pratique, on a... de préférence, on va utiliser de l'eau de source, de l'eau de forage, qui va être à température basse, à 12 degrés, pour ne pas dépasser les 18-19 degrés à peu près pour des truites.
Alors, premier avantage, c'est l'eau. Vous en aviez deux autres à citer. On va fonctionner comme ça. Ouais. Pastristas, vous introduisez, puis après, illustration avec Pierre Robignac. Le deuxième avantage,
oui.
Quel est-il?
Le deuxième avantage, c'est la gestion des rejets, effectivement. C'est-à-dire.
Comme on disait, première partie d'émission, c'est donc les déjections.
Les déjections,
les intrants, comme on dit.
C'est ça. Donc, dans notre système,
engrais,
à la sortie du bassin, on a un filtre qui retient les déjections des poissons. Au lieu de les jeter, en fait, on les valorise dans un bac qu'on appelle un lombricomposteur, c'est-à-dire dans un bac dans lequel on va développer aussi une production de vers de terre. Et on va transformer finalement, qui vont eux-mêmes digérer les déjections des poissons et transformer tout ça avec des aimants végétaux qu'on va rajouter en compost. Donc on va aller regarder finalement, on élève des poissons,
je fais un arrêt sur image donc pour aider les auditeurs. Donc les déjections de poissons, vous avez dit ça passe, donc c'est les bactéries qui filtrent, ça transforme une partie donc en nitrate, mais il y a aussi donc une partie qui part pour ce fameux compost que vous venez de décrire.
Tout à fait. En fait, à travers ce
donc il n'y a pas de déchets du tout du coup.
Et non, c'est ça qui est fabuleux, c'est que si vous voulez dans ce système là, le déchet d'un étage devient la nourriture de l'étage suivant. Et ces différentes chaînes alimentaires qu'on installe permettent d'avoir une très forte économie d'eau et une épuration extrêmement poussée de l'eau. Ce qui fait qu'on peut la réutiliser, d'où cette faiblesse de consommation. Donc on gère l'eau, on gère les rejets. Et d'un point de vue qualitatif aussi, on peut en parler, les antibiotiques, les produits de traitement. Bien sûr, sur un système en circuit fermé, si on utilise des antibiotiques, c'est pour ça qu'il faut être rigoureux, on risque de tuer le lit bactérien, par exemple. Donc, il ne faut pas, dans la pratique, on a une gestion très stricte et dans la mesure où on utilise de l'eau de fourrage de source, voire de ruisseau qui aura été stérilisé préalablement, on ne rentre pas de pathologie, disons, sur le site.
Et Pierre Aubignac, sur l'absence de déchets, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez illustrer par votre ferme?
Alors oui, alors nous, du coup, sur l'exploitation, on a zéro rejet dans le milieu. C'est-à-dire que toute l'eau est intégrée.
Rien, promis, rien du tout.
Promis, on ne fait aucun rejet dans le milieu. Mmh. Au niveau de l'eau, tout est tout le temps recirculé. En fait, on fait juste des apports parce que la plante consomme une partie de l'eau pour produire sa matière végétale. Donc, on est obligé de rajouter de l'eau. Par contre, il n'y a aucune eau qui sort du système. Et après, effectivement, pour tout ce qui est produits phytosanitaires, même de la bouillie bordelaise que vous pourriez utiliser sur vos tomates bio, allez mettre de la bouillie bordelaise dans un aquarium. Les poissons, ils aiment pas trop de manière générale. Donc, c'est vraiment zéro produit phytosanitaire. Il n'y a que de l'eau pure qui est pulvérisée sur les plantes quand il fait un peu chaud.
Donc, on ne rajoute pas ces déchets de cuisine sur les tomates de l'aquaponie comme on peut faire en permaculture.
Absolument.
Allez, troisième avantage. Patrice Haas, toujours dans ce jeu de ping-pong. Quel est-il ?
Oui, c'est aussi le. On en a parlé un peu, mais c'est le fait de produire au plus près des consommateurs. Ça veut dire qu'une ferme, une pisciculture classique, elle a besoin d'avoir de l'eau fraîche et on va plutôt la trouver en zone de montagne ou au pied de certains plateaux comme par chez nous dans le Lot, mettons. Là, en aquaponie, on peut travailler avec des débits extrêmement faibles. J'ai parlé tout à l'heure de 8 mètres cubes pour produire 20 tonnes de poissons, par exemple. Donc, ça peut être des débits issus de nappes phréatiques d'accompagnement de l'Ariège, de la Garonne. J'allais dire, on peut s'installer à proximité d'anciennes granières.
D'où le reportage de France 2 qui laisse entendre que ça pourrait être une manière, l'espèce de nouveau maraîchage des temps modernes dans les très grandes villes, en fait.
C'est vrai, parce que ça peut être aussi valoriser des secteurs, des endroits qui ont perdu toute vocation agricole, des friches industrielles, des serres horticoles à l'abandon. Ça peut être aussi dans des bâtiments industriels, par exemple, qui ont perdu toute vocation, toute activité. Malheureusement, il y en a un paquet. Et sur lequel on peut redonner une activité finalement agricole.
Alors moi j'ai deux questions pièges. Je vais commencer par la première, peut-être la plus amusante, c'est que quand on voit ce reportage de France 2, alors là on n'a pas l'image, hein, mais les auditeurs pourront facilement taper sur internet, ça ressemble probablement pas à votre ferme Aquacosi, enfin votre ferme qui s'appelle Aquacosi, Pierre Aubignac, mais d'imaginer manger des légumes qui ont poussé sous lumière artificielle dans une eau avec, a priori, en tout cas c'est comme ça qu'on le comprend, des déjections de poissons. En tout cas, sur les images, ça ne fait pas rêver. C'est comme, je me souviens, d'un entrepreneur qui était venu nous vendre des sauterelles en apéritif, disant que c'était la solution de demain au problème de la production, la surproduction de viande. Qu'est-ce que vous diriez sur ce premier a priori ?
Alors, plus que sur
on
la
dit,
partie a priori.
Pour une bonne tomate, il faut du soleil et une bonne terre, sinon ça va...
Alors absolument. Alors moi là-dessus, je ne suis pas du tout objectif, puisque je prêche pour ma paroisse, hein, si je puis dire.
Vous aimez vos tomates, oui.
Et j'aime bien mes tomates, absolument. Non, par contre, nous, là où on travaille aujourd'hui, donc, comme disait Patrice, on essaie de faire essentiellement du local. Donc nous, on est basé à Montauban. Et on a une grosse partie de notre production qui part pour les restaurateurs montalbanais. On travaille avec des restaurants gastronomiques sur Montauban, avec des pâtissiers étoilés, etc.
Donc ils ne se plaignent pas de vos tomates.
Et au contraire, en fait, on a une demande plus importante que l'offre aujourd'hui. Ils cherchent à voir...
Qu'est-ce qu'ils lui trouvent comme avantage ? Le goût est différent
Exactement. Ils nous disent que c'est un goût qui est différent. Ça n'a rien à voir, quelque part. C'est-à-dire que c'est un goût différent, mais que eux trouvent très intéressant. C'est des tomates, après il n'y a pas de secret, hein, pour avoir une bonne tomate il faut la cueillir mûre, il faut qu'elle ait pris du soleil donc elle ait eu le temps de grandir. Nous on cueille nos produits le matin même, on les envoie dans l'heure auprès des restaurants, donc vous avez des produits de super qualité, quoi.
Donc un certain nombre de restaurants gastronomiques de Montauban ont des tomates aquaponiques, c'est ça qu'il faut entendre.
Absolument.
Alors deuxième a priori, en tout cas c'est peut-être, après avoir regardé des reportages, c'est quid de la lumière artificielle ? Vous faites ça qu'avec la lumière du soleil, ou j'allais dire du soleil classique. Là aussi on peut se dire qu'en fait ça demande beaucoup d'énergie s'il faut à chaque fois de la lumière artificielle, si on imagine des grands hangars avec... la production aquaponique.
Alors, vous avez toujours des abus hein, dans tous les systèmes. Nous, l'objectif sur l'exploitation, donc pour parler que de notre cas, c'est de faire quelque chose de très éco-responsable. Donc, on ne produit pas de légumes hors saison. On ne met pas de lumière artificielle, hein, c'est juste avec effectivement la lumière du soleil. Alors après, comme on travaille sous serre, eh ben on arrive encore à avoir des tomates en décembre, naturellement, c'est-à-dire qu'il fait plus chaud plus longtemps. Donc on peut tirer les saisons. Par contre, dès l'instant où la tomate meurt, on ne va pas rajouter des lumières supplémentaires. On change la culture.
Voilà. Patrice Astre, est-ce que la plupart des fermes, ou moins dans le sud-ouest, on va y revenir après cette deuxième pause musicale, n'utilisent pas de lumière artificielle? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une facture d'électricité à l'arrivée qui est beaucoup plus salée que...
Pour le moment, non. Et c'est vrai que dans votre reportage, j'ai vu, vous parliez, on parlait d'un cauchemar industriel aux États-Unis.
Une ferme à Chicago, c'est vrai, quand on la voit, ça fait bizarre.
Bon, d'accord. En fait, moi je serais plus large dans mon point de vue. Je dirais que le plus évident, effectivement, c'est d'utiliser le soleil pour faire mûrir les légumes. Dans tous les cas, que ce soit avec lumière artificielle, à savoir des LED horticoles, ou avec du soleil, ce qui est important, c'est de cueillir les légumes à pleine maturité et pas de les retrouver mûrissant en chambre froide avec au final des produits qui sont très peu gustatifs. Mais pourquoi ? Parce que souvent, ramasser à une extrémité de l'Europe pourrait être expédié à l'autre extrémité, par exemple. Donc, voilà. Donc on n'est pas dans ce cas-là, on est vraiment dans du qualitatif. Ensuite, le fait que ça soit produit sous serre, c'est une bonne formule. Moi, je dirais que si on doit construire des bâtiments ou chauffer des bâtiments pour faire de la production, ce serait une triste solution. Par contre, à côté de la solution sous serre dont parle Pierre, s'il y a des solutions qui permettent de valoriser des bâtiments existants, d'utiliser de la chaleur perdue, on appelle ça la chaleur fatale, un peu triste comme nom, la chaleur perdue de méthaniseurs, de hubs informatiques ou d'autres installations, ou pourquoi pas de stations thermales, c'est pas une mauvaise idée, et c'est même, faut quand même penser à nourrir tout le monde, quoi.
Voilà, donc peut-être qu'on aura de l'aquaponie même en haut des buildings. On va faire une deuxième pause et puis on va voir un petit peu le développement de l'aquaponie en Occitanie. Vous finirez l'émission en nous expliquant comment nous, particuliers, on peut peut-être se lancer, si j'ai bien compris. Certains s'essayent à avoir, en plus de leur potager aquaponique. Une adresse email pour ceux qui devraient nous quitter, www.aquaponie-toulouse.fr, aquaponie-toulouse.fr. On vous retrouve dans quelques minutes.
Présence.
Emmanuel Pella.
Aquaponie Kézako, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà, ce Vivante Église se balade et parle, comme on le fait souvent à l'occasion des émissions du vendredi, loin des réalités spirituelles ou ecclésiales, pour ceux qui seraient surpris, de plein de belles choses. Et l'aquaponie, semble-t-il, en est une, un rayon de soleil, comme je le disais en introduction de l'émission, dans cette crise écologique qui nous tombe sur la tête. Avec nous ce matin, donc Patrice Sast, vous êtes président de l'association toulousaine d'aquaponie, et Pierre Aubignac, pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, cofondateur d'Aquacosi, ferme aquaponique à Montauban. Alors, quid du développement de l'aquaponie? On va commencer avec vous, Pierre Aubignac, juste d'où ça vient? Vous me disiez pendant la pause musicale qu'on avait du retard en Europe. Quels sont les pays qui sont en pointe sur le sujet?
Alors, dans les pionniers, on va dire, dans le développement, initialement, en fait, c'est parti des Mayas, des Aztèques, qui avaient commencé cette technologie-là, qui a été perdue après avec l'économie.
Alors juste, pouvez-vous en dire un tout petit mot? Parce que de fait, j'avais entendu ça dans un reportage, on n'en a pas parlé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Mayas avaient déjà imaginé ce type de...
Alors en fait, ils avaient capté que dans les lacs très poissonneux, si on mettait des radeaux de joncs avec un peu de terre dessus et qu'on faisait pousser des plantes, ça fonctionnait bien. Sauf que, avec les arrivées des Espagnols et des Portugais, on a détruit en fait leur patrimoine culturel là-dessus, donc ça a été perdu.
Donc il y avait naturellement ces fameuses bactéries qui transformaient le...
Tout à fait, ils avaient réussi à développer ces systèmes-là. Alors sur un système beaucoup plus extensif qu'aujourd'hui, mais ils avaient réussi à développer ce système-là. Et donc là, après, dans les années 60-70, on a commencé à revoir un petit peu des agricultures, ce qu'on appelait recirculées, qui après est devenue l'aquaponie. Donc là, ça c'est apparu en Amérique du Nord. Donc l'Amérique du Nord est très très en avance sur ces technologies-là.
Canada, États-Unis.
Exactement.
D'accord.
Et après, alors il y a d'autres pays qui ont des problématiques d'eau. Donc typiquement Israël, qui eux, pareil, se sont vraiment bien remis à la page là-dessus parce que ils savent que leur réserve en eau diminue. Et après, vous avez tout l'Asie du Sud-Est également qui est très développée dessus, puisque ils faisaient ce qu'on appelait de la rizipisciculture. C'est-à-dire que vous aviez des poissons au milieu des rizières, donc ça aussi, ça fait partie de méthodes ancestrales qu'ils ont réussi à développer.
D'accord, à redévelopper. Donc.
À redévelopper, tout à fait.
Vous citiez particulièrement la Thaïlande.
Voilà.
Patrice Sastre, donc l'association toulousaine d'aquaponie donc travaille à développer l'aquaponie en Occitanie. Avant que vous nous parliez de son travail et puis surtout du développement de l'aquaponie dans notre sud-ouest, notre cher sud-ouest, en France, l'aquaponie, c'est combien de fermes? C'est à la louche?
À la louche, c'est quelques dizaines de fermes en fait, c'est vraiment très très récent.
On en est au début.
Ah, on en est complètement au début.
On a des pionniers donc ça, en plateau, c'est ça.
Ah, oui, c'est vrai en plus. Ouais. Disons que ça va exploser maintenant parce que la plupart des écoles de pisciculture maintenant forment à la fois à la pisciculture et à l'aquaponie. Donc voilà, on va sortir, chaque année...
Il y a des promos d'aquaponie
qui
vont sortir.
Des centaines de jeunes qui, pour un certain nombre, vont avoir envie aussi de partir dans cette direction, d'autant plus que, pour revenir sur mon métier initial, c'est pas évident de créer une pisciculture à l'heure actuelle. Donc l'ATA, ça a été créé en août 2016.
Donc, l'ATA, c'est donc l'association toulousaine d'aquaponie.
Pardon, a été créée par une équipe de passionnés, sept personnes au départ. Et là, on tourne entre une cinquantaine d'adhérents à peu près, donc avec une dizaine de fermes, une dizaine de fermes sur l'Occitanie. Et il y en a aussi un certain nombre qui sont en projet à différents stades d'avancement.
Donc, c'est des fermes de toute la même taille.
Non.
Il y en a pas qui se sont lancés dans des projets pharaoniques comme dans ce reportage de France 2 à Chicago.
Non, le pharaonique. Il y a une grosse ferme qui est en travaux effectivement dans le Gers, qui représente 1600 mètres carrés de surface et dans une deuxième tranche qui doit développer un hectare à peu près de surface.
Alors, est-ce que vous ramez à contre-courant ou est-ce que vous êtes entendu, soutenu par les pouvoirs publics, par des investisseurs, ou est-ce qu'aujourd'hui tout le monde vous fait les gros yeux?
Alors, honnêtement, pour avoir circulé un peu partout, j'ai d'abord rencontré, disons, de l'intérêt et de la curiosité. Maintenant, on commence à un peu plus entendre parler de l'aquaponie. Par contre, il y a des difficultés, je dirais, plutôt au niveau des financements européens, où il y a par exemple un financement qui existe pour l'aquaculture, qui s'appelle enfin on passe sur les sigles, mais le FEAMP, et un autre financement qui existe pour l'agriculture classique qui s'appelle le FEADER, on passe aussi sur les sigles. Et le problème, c'est que ces deux dispositifs européens, ils ne se comprennent pas trop. Or nous, au niveau de l'aquaponie, on a un peu des deux. Donc on a des difficultés de coordination pour monter les dossiers là-dessus, c'est pas simple.
Alors quid du label bio aussi
Oui.
J'ai cru qu'on monte, pour l'instant vous n'étiez pas labellisé. Pierre Aubignac,
oui.
Pourquoi ? Est-ce que c'est dans les tuyaux ? Est-ce que vous êtes en pourparlers avec les entreprises qui certifient bio ? Alors, avec les pouvoirs publics d'abord, j'imagine ?
Le bio, en fait, on ne peut pas y avoir accès parce que le bio est inhérent à un sol. C'est-à-dire que vous pouvez labelliser bio un terrain, une parcelle agricole, votre jardin si vous voulez, mais dès l'instant où vous travaillez sur des systèmes hors sol, vous ne pouvez pas avoir du bio.
Et il pourrait y avoir un label bio hors sol.
Absolument. Alors aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc même si on produit sans produit phytosanitaire, qu'on est quelque part presque même plus bio que du bio, voilà, on ne peut pas avoir ce label-là. Par contre, nous, on travaille actuellement sur une certification HVE, donc haute valeur environnementale, qui a été développée par l'État depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et également le label zéro résidu de pesticides pour valoriser aussi la qualité écologique, on va dire, de nos produits.
D'accord, c'est la même chose que le zéro phyto qu'on peut voir parfois dans certaines campagnes.
Exactement,
d'accord.
C'est le même label.
Et juste un complément de ce que dit Pierre.
Rapidement, parce qu'après...
Oui, très vite. Au niveau de l'ATA, effectivement...
c'est donc toujours l'association Toulousaine d'Aquaponie.
En fait, on essaie de mettre en place un réseau de fermes aquaponiques avec toutes sortes de services pour s'entraider les uns les autres, mais aussi la mise en place d'une marque collective entre nos fermes pour pouvoir justement mettre en avant la qualité de nos produits dans la mesure où, malheureusement, on ne peut pas avoir accès à une certification bio. Voilà.
Alors pour finir, ça n'est pas pour vous ôter vos clients hein, que je vais parler de ça, mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait, de même qu'on pouvait faire son potager, on peut imaginer, parfois un potager même sur un balcon, hein, on pourrait imaginer faire pousser au-dessus de son aquarium des légumes, et ce, pourquoi pas, à une un peu plus grande échelle. Alors, je ne sais pas qui des deux veut intervenir. Allez, honneur à notre pionnier, Pierre Aubignac. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à nos auditeurs ? Il faut se précipiter donc à l'île aux légumes, qui est donc la version pour les particuliers de votre ferme qui s'appelle Aquacosi. Mais comment se lancer ?
Alors, se lancer, c'est compliqué, parce qu'il faut à la fois être capable de gérer un cheptel aquacole, donc des poissons, et des plantes. Donc sur des grosses échelles, là, il faut avoir un bagage de plusieurs années. Nous, ça nous a pris quand même 3 ans de formation pour réussir à sortir quelque chose, on va dire, hors du sol. Par contre, sur des petits modules pour les particuliers.
J'allais dire, j'ai vu des tutos sur un moteur de recherche que je ne citerai pas, où on peut faire pousser des légumes au-dessus de son aquarium. Alors est-ce que c'est de la publicité mensongère ?
Alors, au-dessus de l'aquarium, c'est possible. Après, ça demande quand même une certaine technicité. Là-dessus, moi, je vais plus facilement passer la main à Patrice, qui, au sein de l'ATA, accompagne plus facilement les particuliers.
Allez, la patate chaude pour Patrice Tastre, et on finira par ça.
Oh, elle n'est pas trop chaude, ça, je vais y arriver. Oui, effectivement, je l'ai fait même pour des voisins dans la rue en face de chez moi. Je leur ai installé, en fait, un bac pour faire du basilic, des tomates cerises au-dessus de leur aquarium. Et du jour au lendemain, ils ont arrêté de changer leur eau, d'installer un système de nettoyer leurs filtres qu'ils avaient dans l'aquarium. Plus besoin. L'eau, elle est cristalline, les poissons se portent très bien et tout le monde pousse gentiment. Pourquoi ? Parce qu'on a installé finalement la partie végétale qui va épurer l'eau et qui va consommer les rejets des poissons. Donc on peut le faire.
Et on a des tomates cerises toute l'année, non ?
Alors, dans la mesure où on est dans la maison, on a quand même moins de lumière, mais c'est vrai qu'on a moins cette pause hivernale, donc on peut arriver à avoir de la production végétale quasiment toute l'année.
Incroyable, voilà, merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin de l'aquaponie. Donc je rappelle, un site internet pour l'association toulousaine d'aquaponie, www.aquaponie-toulouse.fr, www.aquaponie-toulouse.fr, vous inquiétez pas, j'avais bien noté, et l'adresse email contact@aquaponie-toulouse.fr. aquaponie-toulouse.fr, vous rajoutez juste arrobase et contact devant et vous aurez tout. Un grand merci à vous. Je ne sais pas s'il faut dire vive l'aquaponie, l'avenir le dira. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir cela. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.